Ce soir, Natacha Polony, la directrice de la rédaction de Mariam, face à Alain Duhamel.
Bonsoir Alain.
Bonsoir à vous deux. On va parler budget. Le débat à l'Assemblée nationale commence véritablement ce soir. Perrine Vasque est sur place pour BFM TV. Perrine, ça s'annonce particulièrement animé.
Oui, même si, écoutez, les débats en commission la semaine dernière ont été plutôt polissés. C'était argument contre argument et pas forcément invective contre invective. Pour tout vous dire, j'ai connu plus animé que cette rentrée parlementaire, même si on aurait pu penser le contraire. Mais animé, c'est certain, lorsque ce budget va arriver dans l'hémicycle, parce que vous le savez très bien, désormais, il n'y a pas de majorité, même si sur certains points, attention, hein, les oppositions se retrouvent, notamment ce refus de la hausse de la taxe d'électricité qui est partagée par la gauche, par le Rassemblement national, par la droite. Il y aura donc peut-être des amendements votés sans trop de discussion, mais que va garder le gouvernement? Est-ce qu'il y aura un vote? Est-ce qu'il y aura un 49-3? Ce qui est sûr, c'est qu'un vote devra être fait pour cette première partie sur les recettes à partir du 29 octobre. On devra passer à la deuxième partie, celle des dépenses. Il faudra donc soit un premier 49-3, soit un vote. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ce soir, ça pourrait commencer par une motion de rejet déposée par la France Insoumise, mais rien n'est moins sûr parce que tout le monde veut débattre, même les Insoumis. C'est pas forcément évident, donc peut-être qu'ils retireront cette motion de rejet, peut-être même qu'ils ne la déposeront pas. Ce sera le suspense jusqu'au dernier moment.
Merci Perrine Vasque avec Vincent Berthézen. Alain Duhamel, Michel Barnier, peut-il vraiment éviter le 49-3 pour faire adopter son budget?
Moi, je crois que la question ne se pose pas de savoir s'il y aura le 49-3, mais quand il y aura le 49-3. Il y aura forcément à l'arrivée d'une manière ou d'une autre, à l'arrivée ou au départ, un 49-3 dans la mesure où il manque une centaine de voix au gouvernement pour faire passer son texte. Donc, il n'y a pas de secret, il faudra bien qu'il utilise le 49-3, qui d'ailleurs a très exactement été fait pour cela, dès le départ, dans l'esprit et du général de Gaulle et de Michel Debré, c'était fait pour permettre de faire passer la loi de finances, alors même que toute la fin de la 4e République, c'était l'impossibilité de faire voter les lois de finances. Donc c'est vraiment fait pour ça.
Et depuis 2022, les budgets passent par le 49-3, puisqu'il n'y a pas de majorité depuis 2022.
Exactement. Bon, et au début du gaullisme aussi, c'était la même chose, il n'y a pas de majorité. Bon. Donc, le 49-3 est indispensable, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Ça, indispensable dans la mesure où il manque une centaine de voix pour faire une majorité. Maintenant, à mon avis, la vraie question, c'est non pas si, la vraie question, c'est quand. Et moi, ma réponse, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que le plus tard sera le mieux. Parce que si on commence à faire, d'abord, rappelez-vous le souvenir d'Elisabeth Borne l'année dernière, un chapelet de 49-3, on est sûr, un, d'exaspérer les députés, deux, d'exaspérer les Français, ce qui n'est pas extrêmement efficace. Par-dessus le marché...
Surtout pour faire adopter des mesures plutôt impopulaires.
Des mesures qui, pour la plupart, en tout cas, risquent d'être impopulaires. Quand les choses vont aussi mal sur le plan budgétaire, il y a rarement des mesures graves. Mais sur le fond, il faut essayer de le faire le plus tard possible aussi. D'abord parce que tout le monde dit qu'il faut revaloriser le rôle du Parlement. Ben oui. Il faut le revaloriser, donc il faut qu'ils débattent. Il faut qu'ils débattent article par article et de façon convenable. Ensuite, parce que les Français détestent le 49-3, ça n'est pas suffisant. Mais enfin, moins on l'utilisera, mieux ça vaudra. Et puis, parce que pour Michel Barnier, plus il y aura de 49-3, plus il y aurait de 49-3 utilisés, plus il y aurait de risques, évidemment, de motion de censure, qui est très facile. Donc, au total... Le plus tard sera le mieux.
Natacha ?
Je reprends juste, cher Alain, ce que vous disiez. Un des points que vous avez soulevé, qui est très important, à mon avis, c'est tout le discours de Michel Barnier a consisté jusqu'à présent à dire « je m'appuierai sur le Parlement, sur les députés », puisqu'il est arrivé avec cette posture d'ailleurs très intelligente, hein, très humble, de dire « voilà, moi je ne suis là que parce que il y a un Parlement et ma légitimité tient de là, je peux tomber dans l'heure qui suit ». Bon, très bien. Donc, comment va-t-il faire ? En fait, c'est ça, l'arbitrage, il va être très intéressant parce qu'on va voir si tout ça, ce ne sont que des mots. Sachant qu'en commission, on a déjà vu des choses très intéressantes. On a vu, par exemple, le Modem se positionner pour la taxation des plus riches, qui est d'ailleurs une tradition hein, oui. au Modem, c'est pas oui. surprenant. Oui. Mais ça complique les choses dans la mesure où, du coup, les élus Modem n'ont pas la même position, par exemple, que les élus, je ne sais plus comment on les appelle, Renaissance, EPR,
ensemble,
machin, enfin bon, voilà,
ensemble,
voilà,
horizon,
voilà, les macronistes.
Et les macronistes veulent taxer davantage.
Horizon, qui sont totalement contre les hausses d'impôts, même pour les très 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 riches. Donc ça va permettre à chacun de se positionner. Il n'en sortira pas grand-chose, puisqu'on sait tous que ça terminera par un 49-3. Mais c'est l'intérêt, à mon avis, ne dites pas, Olivier, que ça n'a aucun intérêt.
Oui, oui.
Ça a un intérêt qui est de montrer quelle est la vision que les uns et les autres de ce qu'est ce budget et donc de la justice fiscale.
Je reviens à un point qui est à la fois un des objectifs et en même temps une des méthodes de Michel Barnier et qui correspond à une demande depuis des années et des années, qui est il faut qu'un débat au Parlement serve à quelque chose. Si un débat au Parlement, c'est une succession de 49-3,
alors dans
pas
ce cas-là, il faut tenir compte des remarques des oppositions.
Bien sûr, sinon, mais c'est ça qu'on va
regarder. C'est pour revenir au budget Barnier à la fin.
Ça va justement être l'intérêt de ce qui va se passer.
Vous le croyez vraiment ?
Non, mais est-ce qu'ils en tiendront compte ou pas ?
À la
marge. Ils vont évidemment. Moi, j'ai regardé un peu les détails de ce que proposait Jean-Luc Mélenchon et que reprenaient ses partenaires de gauche. Ça va pas être repris par la droite. Hein, ça faut pas se raconter d'histoire.
C'est beaucoup d'impôts. Hein.
Mais oui, non, bah, évidemment, puisque Coquerel lui-même dit c'est 60 milliards. Alors d'autres disent c'est 50. Ça prouve que les chiffres c'est pas absolument leur truc. Mais enfin bon, c'est de toute façon indigeste pour une économie de marché. Si on était Sainte-Hélène, si on était l'île de Sainte-Hélène, on pourrait peut-être faire ça, mais il se trouve qu'on ne l'est pas. Bon, mais au-delà de ça, l'idée selon laquelle un Parlement s'est fait pour débattre, un Parlement s'est fait pour opposer des thèses, mais aussi voir si, même si ça paraît aberrant au départ, on n'arrivera pas à avancer ensemble sur certaines choses, il y a des choses sur lesquelles il peut y avoir des avancées. Bon, typiquement, en ce qui concerne le gel provisoire des retraites, ben, on peut tout à fait imaginer qu'ils se mettent d'accord et qu'il y ait une majorité réelle pour dire, pour les plus modestes, il faut naturellement les exonérer.
Je crois que c'est pas possible, en fait. On peut pas...
Je crois qu'on peut.
Ah bon, on peut finalement.
Oui, oui, je crois qu'on peut. Puis il y a d'autres choses qu'on peut faire. Par exemple, s'il s'agit d'élargir la possibilité d'utiliser des prêts à taux zéro pour l'achat d'une résidence principale. C'est très possible qu'ils arrivent à se mettre
là-dessus. On peut améliorer la marge. Mais par exemple,
Moi,
je pense que les Français se disent, est-ce qu'on va augmenter davantage les impôts par rapport à la première mouture
Barnier ? Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les oppositions sont en train de se battre pour essayer de supprimer tout ce qui va toucher les classes moyennes. Donc, l'un des éléments essentiels du débat, ça va être ça. Ça va être de savoir si, à la fin, on retient cette coloration qu'essayent de donner les oppositions, à savoir, on exonère les classes moyennes, on ne tape que
et
tout en
oppositions
haut.
Et le Modem.
Non, mais et le Modem, bien sûr.
Et même une partie de ce qu'on appelait Renaissance, qui doit encore avoir encore
une
changé de nom.
Une petite partie, même si à Renaissance, pour l'instant, ils se sont tous battus, surtout pour montrer qu'il fallait la main sur le cœur, surtout pas de hausse d'impôts, etc. Mais donc la question, elle est essentielle, et c'est en ça que c'est utile, ces débats. D'abord, souvenez-vous, quand même, au lendemain des législatives de 2022, c'est-à-dire la rentrée 2022, mois de septembre, c'est là qu'on a vu les plus beaux débats à l'Assemblée. Pardon, mais il y avait eu des prises de parole absolument fondamentales, des débats, pour le coup, qui étaient plutôt intéressants, malgré le brouhaha et l'espèce de bordélisation qui avait déjà commencé. Donc, des débats à l'Assemblée, ça peut être passionnant, ça peut concerner des sujets importants, sachant que quand vous disiez, Olivier, ça sera à la marge, mais de toute façon, ce budget est à la marge. Enfin, pardon, mais c'est un budget de transition, c'est un budget qui ne va pas changer quoi que ce soit. Vous receviez Arnaud Montebourg tout à l'heure sur votre plateau. Voilà, tout ce qu'essaye de mettre en avant Arnaud Montebourg sur la réindustrialisation de la France, ça ne se fera pas là.
Ça pourrait se faire. Non. J'ai entendu Gabriel Attal
non,
qui disait,
parce qu'il n'y a pas
faut
la
des
légitimité
réformes de
politique. Mais c'est pas vrai,
il sait
très bien. Mais il sait très bien que c'est pas vrai.
Non, mais surtout, on n'est pas dans n'importe quelle situation. Là, on est, au sens propre, aux abois.
Donc c'est du rafistolage.
Bon, non, mais ça veut dire, d'une part, qu'il y a des mesures qui vont être, j'espère, provisoires, mais forcément désagréables, et d'autre part, qu'à travers un débat à l'Assemblée, il peut y avoir des moyens pour, en tout cas, atténuer les inconvénients.
Oui, mais
il va
pardon,
y avoir,
je
il va y avoir, il va y, il va y avoir, il va y avoir des, il va y avoir inévitablement des mesures qui seront des mesures désagréables. Alors, le tout est de savoir désagréable pour qui et pour servir.
Les PME, par exemple, sont inquiètes.
Pour qui et pour servir à quoi?
Les PME sont inquiètes. Par exemple, l'apprentissage, le SMIC, ça, c'est des mesures qui vont toucher directement les PME et notamment leur trésorerie.
Il faut voir aussi l'apprentissage. Il y a eu des effets d'aubaine. Enfin, il faut regarder point par point. Mais juste une chose.
Les entreprises, on change les règles du jeu comme d'habitude.
On est d'accord. Les entreprises souffrent de ça et les PME sont dans une situation très difficile et on a des défaillances de PME comme on en a rarement eu. Donc c'est éminemment inquiétant.
Ce qui s'explique,
mais Alain, quand vous disiez on est aux abois, en fait, cette présentation-là, à mon avis, pose un problème. Pourquoi ? Parce qu'on sera tout autant aux abois, si c'est ça que vous entendez, en 2027, c'est-à-dire qu'on n'aura pas rétabli par magie les comptes.
Si
et justement, on est en train de s'enfoncer. Pourquoi ? Parce qu'on en est réduit à raboter d'un côté, à les grappiller de l'autre, alors que le sujet, c'est comment on crée de la richesse. Et que ça nécessite des grandes réformes de structure, et les grandes réformes de structure, ça nécessite une légitimité politique, une cohérence de vision. Et pour l'instant, Michel Barnier, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe, il n'a pas de programme, de structure.
Ce sera indispensable. Je sais que c'est également votre pente, mais je vais répondre quand même à vous deux. Qu'il y ait des réformes de structure à faire, notamment en ce qui concerne l'industrialisation, mais pas seulement ça.
C'est une évidence. L'agriculture est
C'est une évidence.
Les agences.
Et ça ne peut se faire qu'avec une majorité, et une majorité nette. Parce que plus les réformes sont ambitieuses, plus il faut que la majorité soit large. Donc c'est exactement à l'opposé de la situation dans laquelle nous nous trouvons, où il n'y a aucune majorité. Bon, à partir de ça, il n'empêche qu'on est dans une situation qui est une situation financière et qui risque d'être aussi monétaire. Et que dans ces cas-là, il faut prendre des décisions qui sont par nature, des décisions qui ne sont pas créatrices de réformes, qui sont pour tenir le coup devant les marchés et les concurrents.
Certains disent que ça pourrait aggraver la situation économique. Non, le FCE le dit notamment. Ça pourrait être divisé par deux la croissance. Moins de rentrée d'argent.
Dans ces cas-là...
C'est le FCE qui le dit.
Non, mais j'ai bien vu que vous aviez un accord.
Seul contre tous, alors.
Face à la terre entière.
Mais dans ces conditions-là, les mesures à prendre sont désagréables. La question est de savoir si, d'une part, elles sont évitables. Moi, ma réponse, c'est non. Et d'autre part, de savoir pour qui elles sont désagréables. Et quand on parle en ce moment des augmentations d'impôts, etc., les questions que se posent les Français, c'est pas de savoir est-ce que c'est bien ou mal en soi. C'est est-ce que ça va me toucher moi ou est-ce que ça va pas me toucher moi. Bon, et une des choses qui peuvent sortir des débats parlementaires, c'est justement d'éviter déjà que ça touche ceux qui ont le plus besoin d'être protégés. Si les débats ne servaient qu'à ça, ils auraient déjà servi à quelque chose.
Maintenant, je veux qu'on parle de la motion de censure, parce que vous dites tous les deux, il y aura forcément un 49-3. Donc, il y aura aussi forcément un dépôt de motion de censure.
Oui.
Est-ce que Barnier peut être censuré sur le budget ?
Écoutez,
est-ce que c'est un risque pour lui ?
Bien malin qui peut dire quand tombera une motion de censure. En revanche, ce qu'on peut dire en restant prudent, me semble-t-il, c'est que pour l'instant, on ne voit pas bien qui aurait intérêt dans les forces politiques à censurer Michel Barnier maintenant. C'est-à-dire que dans la mesure où il est dans une situation profondément instable, mais qu'en même temps, il fait le sale boulot et qu'il n'y a pas de solution alternative pour l'instant, je ne vois pas bien pourquoi là, tout à coup, le Rassemblement national, par exemple, déciderait de voter la motion de censure proposée par le NFP.
Oui.
Je pense que ce n'est pas forcément la bonne fenêtre de tir pour eux.
D'accord avec ça ?
Alors, deux choses. La première, je pense que la force de Michel Barnier, c'est sa faiblesse. C'est-à-dire que comme on sait qu'il peut être renversé n'importe quand et que personne en ce moment n'a besoin d'être à l'origine d'un drame, c'est-à-dire de créer un problème au sein de nos problèmes, d'en rajouter. Donc, il a des chances, de ce point de vue, d'être, disons, ménagé pendant un certain temps. Maintenant, sa position, sur le fond, sa position, c'est très exactement vis-à-vis du Rassemblement national, celle du supplice chinois. Oui. C'est-à-dire que tous les matins, le Rassemblement national met une goutte sur le crâne de Michel Barnier pour savoir combien de temps ça pourra durer. Mais chaque jour, il y aura « Ah bah oui, on se demande si on va pas voter, peut-être une motion de censure quand même. » Et puis le lendemain, non mais on va pas voter une motion de censure. Mais on n'en écarte pas vraiment la possibilité. Et puis le troisième jour, mais bien sûr qu'on va pas voter la motion de censure, sauf si on nous y contraint. Et ça va être comme ça jour après jour.
C'est un supplice chinois.
C'est ce que je dis.
Michel Barnier est courageux alors.
Bah, s'il y résiste.
Disons que Michel Barnier a accepté de s'y coller dans une situation qui n'était vraiment pas évidente. Et d'ailleurs, les Français lui en savent gré, c'est ce qu'on voit dans les études d'opinion. Ça ne veut pas dire qu'il sera absolument formidable dans cette tâche, mais il a au moins le mérite de le faire.
Le budget, c'est aussi un révélateur des personnalités qui sont à l'Assemblée nationale, qui vont jouer des rôles importants. Est-ce qu'on va avoir à gauche comme au centre et à droite, et aussi à la droite de la droite, des personnalités qui vont jouer un rôle majeur ?
Ah, déjà, il y a le tandem diabolique formé par Coquerel et Courson.
Ah oui.
C'est-à-dire le président de la Commission des finances et le rapporteur général de la Commission des finances.
Ils sont pourtant pas du même bord.
Ils sont pas du même bord, mais ils sont tous absolument contre le gouvernement. Bon,
Je résumerai pas Charles de Courson au fait d'être absolument contre le gouvernement. Je trouve qu'il a prouvé à quel point ses positions étaient plus intéressantes que ça.
Je suis d'accord. Il ne l'est qu'à 90%, alors que Coquerel l'est au moins à
150%. Je ne pense pas que ce soit le seul objectif de Charles de Courson, et je trouve qu'il a montré dans ses différents
débats sur Charles de Courson.
Dans ses différentes prises de position. Disons que je trouve toujours intéressant des gens qui sont capables de temps en temps de s'extraire de leur histoire politique, qui sont capables de prendre des positions que l'on n'attend pas forcément, et de parfois de s'élever contre des intérêts particuliers.
En l'occurrence, il se trouve que c'est quelqu'un qui se range dans l'opposition et qui d'ailleurs a été choisi comme rapporteur général par l'opposition. Oui. Et il est dans l'opposition.
Donc en 2024, la menace, c'est Charles de Courson.
Et c'est tout à fait rarissime qu'à la fois le président de la Commission des finances, qui de droit est de l'opposition, ça c'est la Constitution, et que le rapporteur général, qui normalement est du côté de la majorité, concrètement, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à chaque fois que la Commission des finances se réunit, parle en premier Coquerel, longuement, il aime ça, parle en deuxième Courson, il est plutôt moins long, mais il est moins pittoresque, et que la première personne parlant au nom de la majorité, ça arrive au bout d'une heure, et en général pour 3 minutes.
Vous admettrez que tout le monde a joué à un jeu stupide dans les différentes nominations à l'Assemblée,
et
que ce n'est pas Charles de Courson le plus coupable dans cette affaire-là, et qu'on arrive à des situations aberrantes.
Je suis d'accord avec vous, ça n'est pas le coupable, c'est simplement le bénéficiaire.
Exactement.
En tout cas, on aura appris que Natacha aimait beaucoup Charles de Courson ce soir.
Non, qui m'intéresse, c'est pas pareil.
Oui, bien sûr, merci Alain. Merci Natacha.